Bonjour, c'est Azani. Vous écoutez Isolation Thermique, un podcast de la coordination Action Autonome Noire, produit par Kizu Studio. Bienvenue. Ici l'ombre. Les foncés parlent aux foncés. Ou plutôt aujourd'hui, les un peu moins foncés parlent aux plus foncés et aux un peu moins foncés. Chaque épisode choisit un concept important pour notre engagement et met en lumière d'où il vient, ce qu'il veut dire et à quoi il sert. Des mots-clés pour ouvrir des portes. Aujourd'hui, le terme est métissage.
Le mot métis pose question et Khalidou aussi est allé à la rencontre de jeunes pour le demander. C'est quoi être métis aujourd'hui? Regardez.
Je suis métisse, donc j'ai une maman d'origine nigériane et un papa français, donc une maman noire et un papa blanc.
Pour moi, c'est un peu l'occasion de s'attarder sur ce statut de métisse. Tu vois ce statut qu'on peut aussi appeler le « tu te sens plutôt noir ou plutôt blanc ?»
J'ai grandi avec l'idée que j'étais métisse. Pour moi, métisse désignait ce dont j'étais le produit, ce que j'étais. L'enfant d'un parent noir et d'un parent blanc. Ce n'est que plus tard, à l'âge adulte, quand j'ai commencé à me demander qui j'étais, que j'ai questionné ce terme, gratté, cherché ce qu'il se cachait dessous, essayé de comprendre ce qu'il pouvait signifier pour le monde et pour moi. C'est ainsi que j'en ai découvert la complexité. Métis, adjectif. A. Issu du croisement de deux races ou de deux variétés différentes de la même espèce. B, qui résulte du mélange de deux choses différentes. Dérivé du verbe latin miscere, qui signifie mêler, mélanger. En français, au XIIe et au XIIIe siècle, l'adjectif signifie qui est fait moitié d'une chose, moitié d'une autre. On s'en sert pour désigner des objets, tissus, métaux. Au XIVe siècle, il désigne le mélange de deux espèces d'animaux. Puis progressivement jusqu'au XVIe siècle, il commence à désigner les êtres humains. On trouve la définition dont la mère est d'un autre peuple que le père chez les Grecs, puis personne née d'un homme blanc avec une indienne ou inversement. Métis désigne donc les croisements entre espèces de plantes, métaux, tissus, animaux, puis lorsqu'on les invente, de races humaines. Le métissage biologique suppose l'existence de races fondamentalement distinctes, différentes, qui se mélangerait pour créer une nouvelle espèce humaine aux propriétés mêlées, différentes et inconnues. Cette signification émerge avec le début des conquêtes coloniales, en même temps que naît l'idéologie moderne qui, pour se justifier, crée cette hiérarchie qui place le blanc en haut de l'échelle et le noir tout en bas. Si la race biologique n'existe pas, alors être métis n'existe pas. Certains et certaines voudraient étendre l'idée de métissage aux cultures. De tout temps, il y a eu des échanges, des interactions entre les groupes humains. C'est un fait qui n'est ni nouveau, ni né avec le colonialisme. Mais peut-on appeler ça du métissage? Ce terme est ancré dans un système de pensée raciste. C'est pour cela que, si au sens culturel, l'enfant d'une Sénégalaise et d'un Congolais est métisse, l'enfant de parents Peul et Bambara aussi, en Occident, ils et elles seront rarement perçus et interprétés comme tels. Le métissage décrit autre chose qu'une simple interaction de culture, un mélange de groupes aux langues, traditions et visions du monde différentes. Le métissage est un processus racialement construit, et métis désigne l'ensemble des catégories raciales qui en découlent. Pourquoi ? Comment ? Lorsque les puissances coloniales s'étendent et projettent leur domination à travers le monde, elles se trouvent confrontées à un dilemme. Que faire des enfants d'indigènes et de colons, produits, il faut le rappeler, par le viol des hommes blancs sur les femmes indigènes? La peur du métissage est partout, car la suprématie blanche instituée est menacée par le salissement du sang que ces enfants représentent. On ne sait pas quoi faire de ces populations sacrilèges, qui ne rentrent dans aucune case. Donc, on en crée de nouvelles et on fait en sorte qu'elles soutiennent le système en place.
André a été l'un des tout premiers pensionnaires de ce qui s'appelait à l'époque le foyer des Métis. Placé dans l'ancien palais des gouverneurs de la colonie française, l'établissement accueillait les enfants des colons blancs avec des femmes africaines.
Diviser pour mieux régner. Pour survivre, le pouvoir colonial organise et hiérarchise les groupes, les classes raciales. Il sépare la population dominée en sous-catégories, accorde des privilèges relatifs à un groupe, permettant ainsi de maintenir l'ordre. Ce groupe se sent supérieur, donc sert la domination blanche. On voit naître tout un tas de mots pour désigner les diverses populations, en fonction de prétendus critères de pureté du sang, de mélange et de teinte de la peau. Par exemple, dans les Antilles françaises et dans la Caraïbe, mulâtre, mulâtresse, chabin, chabine, carteron, carteronne, octavon, octavone, capresse. Et le mot métis rassemble toutes ces catégories. Si la procréation entre groupes est d'abord vue comme une menace, l'idée de métissage intervient comme un outil pour calmer les angoisses et maintenir la domination. Et la proximité à la blanchité devient alors un moyen d'accession à un statut social. Pour en savoir plus, je vous renvoie à l'épisode 9 d'Isolation thermique, colorisme.
Qu'est-ce que le mot colorisme et d'où vient ce mot ? On l'attribue à la militante et écrivaine Alice Walker, ouais, celle qui a écrit « La couleur pourpre » et qui l'a notamment employé dans son livre « À la recherche des jardins de nos mères » publié en 1983. Elle a alors défini le colorisme comme étant les préjudices ou les traitements de faveur auxquels sont exposées les personnes d'une même race, basées uniquement sur leur couleur de peau. En gros, pour faire simple, le colorisme c'est « plus t'es clair, mieux c'est ».
Selon une idée récente, le métissage nous sauvera du racisme. Le métissage serait l'avenir de l'humanité, qui, forniquant dans tous les sens, créera une seule race planétaire, faisant ainsi disparaître le racisme. À mi-chemin entre la naïveté et l'eugénisme, cette idée ne tient pas la route. Tout d'abord, faire disparaître les différences de phénotypes semble peu réaliste. Ensuite, pourquoi cela serait-il souhaitable ? Défendre l'idée d'une couleur, une nation, une race humaine, revient à accepter l'idée même de race. Ici aussi, nous voyons que l'idée de métissage est indissociable de la pensée raciste. Dire que le métissage détruira cette dernière est donc une contradiction dans les termes. Comme nous l'a appris Audre Lorde, les outils du maître ne démantèleront pas la maison du maître, et l'uniformisation des corps et des couleurs de peau humaines ne saurait démanteler un système de domination globale. C'est à ce dernier qu'il faut s'attaquer, pour transformer la société. Le métissage est donc une construction, une invention qui sert à dominer et légitimer la domination. Aujourd'hui, en France, on entend volontiers métis comme une catégorie raciale, bien que ses contours soient extrêmement flous. Dans le cas des personnes afro, on voit partout les marques de cette histoire coloniale. D'abord dans la position de privilège relatif des personnes métisses, qui bien souvent bénéficient du colorisme, des avantages raciaux et ou de classe du parent blanc, face aux institutions françaises structurées par le racisme. Institutions scolaires, système de santé, administration, accès à l'emploi, à la propriété. Mais aussi dans les standards de beauté, particulièrement sexistes. Le physique des femmes noires à la peau plus foncée est dénigré. Les femmes métisses noires plus claires de peau sont exotisées, érotisées. Si cette fétichisation peut sembler au premier abord valorisante, il faut rappeler les mots de Frantz Fanon : celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les déteste. Cela affecte donc la sphère amoureuse, avec à la fois une difficulté pour les femmes plus foncées de se mettre en couple, mais aussi une forte injonction au métissage. On encourage les femmes et les hommes noirs à faire des enfants avec des blancs et des blanches. Il faut claircir cette race que l'on ne saurait voir. Être afrodescendant ou afrodescendante, métisse ou non, et grandir en contexte occidental dominé par la blanchité, est fréquemment source de troubles identitaires. Dans le pays dans lequel on vit, on est minorisé, violenté, isolé, appauvri, rejeté. Mais à qui ? À quoi on appartient ? Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ?
En France, on parle très facilement de métissage et de personnes métisses. Pourtant, cette conception de la race, proche de la biologie, mérite d'être questionnée. Une chose est sûre, les personnes désignées comme métisses fascinent autant qu'elles dérangent.
En tant que personne vue comme métisse en France, nous avons des particularités. Nous vivons une identification partielle à l'expérience noire. Nous subissons la négrophobie, souvent moins violemment, mais tout de même. On nous renvoie toujours à quelque chose qui n'a pas sa place, qui n'appartient à personne, le cul entre deux chaises. Et cette même proximité avec la blanchité, qui nous fournit si souvent des avantages sociaux ou raciaux, est aussi violente. Elle signifie qu'on subit dans l'intimité les préjugés, les discours, les actes négrophobes de notre famille blanche. En cela, nous avons un point commun avec les personnes adoptées. À cela s'ajoutent bien souvent aussi l'incompréhension et les préjugés de notre famille noire.
Mon identité digère les fragments épars d'une histoire coloniale. Mon identité fragmente les récits univoques. Mon identité ne mange pas de ce pain-là. Ou peut-être elle bouffe à tous les râteliers. Mon identité est un cadavre exquis qui se déroule à perpétuité. Mon identité épouse mille reflets de mille miroirs tendus. Mon identité trouble les ancêtres. Mon identité, carte postale, avenir de l'humanité. Mon identité, sac à dos rafistolé. Mon identité, mi-privilège, mi-sacrilège.
Ces troubles sont normaux. Ils naissent de la dissonance, de la cacophonie raciste dans laquelle nous vivons. Il nous faut réussir à dépasser ça pour transformer l'identité métisse, c'est-à-dire la politiser, la mettre au service de la lutte contre la négrophobie. Ne pas se complaire dans nos tragédies individuelles, ni s'accommoder des avantages relatifs qui nous sont accordés. Se réunir, se soigner, se conscientiser, s'organiser. Quelle place pour les métis dans les luttes anti-négrophobie ? Il me semble sinon difficile, en tout cas insuffisant, de nous dire uniquement noir. En ce qui me concerne, j'ai la peau brun clair, les cheveux plus frisés que crépus, l'arête du nez prononcée et les narines larges. En France, lorsque je rencontre quelqu'un, à la fameuse question « Tu viens d'où ?», lorsque je réponds « Le Congo », le visage de mon interlocuteur se tord d'une interrogation douloureuse et on me répond « Ah bon ? Mais on dirait pas ? J'aurais dit que tu venais des îles !» Il y a une association de ma peau claire, de mes cheveux, de mes traits, de mon corps, à la population antillaise, qui est connue pour son histoire du métissage. En France, on me dit, on me voit comme métisse. Lorsque je traverse l'Atlantique pour faire mes études aux États-Unis, I am black. No questions asked. Je deviens noire sans nuance aucune. Point. Si je suis noire là-bas, métisse ici, et blanche sur le continent africain. Que suis-je ? Je suis autre chose. Je n'existe pas dans le regard des autres, mais dans mon propre regard, dans ma propre définition de moi-même, pour moi-même. Qui change ? Qui meut ? Un cadavre exquis qui se déroule à perpétuité. Si je ne m'identifie pas comme métisse, je suis vue comme telle. Donc je partage une expérience sociale et politique avec les autres personnes vues comme noires. Pour lutter efficacement, il est nécessaire que les métisses de France se rassemblent avec elles et eux sous la bannière noire, pour créer une communauté de lutte politique qui reconnaît la nuance de nos diverses assignations et expériences. Ainsi faisons de métisses autre chose qu'une simple assignation raciale. Réapproprions-nous ce mot pour pouvoir se situer dans un contexte où le colorisme et le classisme structurent la société. Il nous permet de reconnaître notre racialisation différenciée en tant que personne issue d'un couple aux parents de races sociales différentes et souvent en tant que personne à la couleur de peau plus claire. Nous sommes noirs et métisses, ensemble et en lutte. Ces mots ne sont pas des titres identitaires, mais la désignation de notre projet politique. Nommer la race qui nous est attribuée pour l'éradiquer, nous mettre en mouvement, au service d'une transformation sociétale profonde, d'un projet radicalement anticapitaliste, anti-cis-hétéropatriarcat, panafricaniste. C'était Isolation Thermique. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes. Nous suivre sur Instagram, @isolationthermique. Pour soutenir Kizu Studio, rendez-vous sur kizustudio.org, sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Assassin Production a une autre vision des choses.